allons nous plonger aujourd'hui dans la grande évasion du prix Nobel d'économie Angus Deaton, un ouvrage paru en 2016 et qui retrace l'origine des inégalités dans le monde et le combat pour sortir de la pauvreté dans une grande fresque historique. Et pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps, nous avons invité Nicolas Bouzou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur du cabinet d'analyse Asterès et directeur d'études à l'université Panthéon à Sas. À quoi fait référence le titre de l'ouvrage La grande évasion, Nicolas Bouzou?
Un film de 1963 qui traitait d'une évasion dans les camps de travail en Allemagne. Vous allez me dire, quel est le lien avec l'économie? L'idée, c'est qu'au fond, à partir du milieu du 19e siècle, l'économie occidentale, en tout cas, elle a connu sa grande évasion, c'est-à-dire sa grande échappée. Elle a réussi à s'arracher à un certain nombre de déterminismes, de quasi-déterminismes, qui étaient la rareté des ressources naturelles, la mortalité infantile, des trappes à pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui vraiment n'arrivaient pas du tout à s'émanciper, n'arrivaient pas à générer suffisamment de revenus pour vivre, ne serait-ce que normalement. Et ça, ce que je décris, c'était la réalité de l'économie et de la vie sociale, au fond, avant le 19e siècle, avant les effets de la première révolution industrielle. Et ce terme de grande évasion se réfère à ça. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle, au fond, l'Occident a largué ses amarres à partir du 19e siècle. Et d'ailleurs, Angus Deaton prend l'exemple de sa propre famille. Donc, c'est un Britannique. Alors, il a pris la nationalité américaine, mais au départ, entre guillemets, c'est un Britannique, exactement. Et il explique un peu l'histoire de sa famille et il compare avec sa propre histoire. Et il explique parfaitement que son arrière-grand-père vivait dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui absolument épouvantables. C'est-à-dire que c'est Les Misérables de Victor Hugo ou les Grandes Espérances de Dickens, si vous voulez. Ou Oliver Twist, si vous voulez, c'est de ce niveau-là. Et donc, Angus Deaton essaie de quantifier ça, vraiment de mesurer le changement à partir de cette grande évasion.
Sachant que dans cette grande évasion, il y a des gagnants et des perdants, comme dans le film, et il y a ceux qui sont encore prisonniers de la pauvreté et de la mauvaise santé.
C'est ça, c'est-à-dire que, au fond, c'est un livre à la fois sur la croissance économique et les effets de la croissance, mais c'est aussi un livre sur les inégalités. Angus Deaton rappelle bien que l'évolution économique et même la croissance économique provoquent des inégalités. On voit bien, à partir du milieu du 19e siècle, on a une explosion des inégalités, tout simplement parce que vous avez beaucoup de gens qui sortent de la pauvreté, mais vous avez aussi des gens qui restent dans ces trappes à pauvreté. En fait, Angus Deaton explique bien que la question des inégalités est souvent mal posée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire, les inégalités, c'est pas grave, au fond, ça fait partie du processus capitaliste. Et puis vous avez des gens qui vont vous dire, au contraire, il faut systématiquement combattre les inégalités. Angus Deaton montre qu'il y a deux types d'égalités. Il y a des inégalités qui peuvent être positif, il est normal que des gens gagnent plus d'argent que d'autres, et à la limite ça peut même donner envie aux personnes les plus modestes de rattraper les personnes qui gagnent de l'argent, et ça peut leur donner un aiguillon, donc ça c'est positif. Puis ça peut être extrêmement négatif, parce que les personnes qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de patrimoine, peuvent en quelque sorte vouloir verrouiller leurs revenus et leur patrimoine, trouver des rentes, exiger des rentes de la part des gouvernements, et là pour le coup ça bloque l'évolution économique et ça empêche les pauvres de devenir riches.
Alors Angus Deaton, pour le présenter en quelques mots, il est professeur à l'université de Princeton et il est particulièrement réputé pour ses travaux justement sur le bien-être des populations. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 2015 pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Et pour lui, la croissance du revenu n'entraîne pas automatiquement une amélioration de la santé. C'est l'une des thèses de son livre. Comment est-ce qu'il en arrive à cette conclusion, Nicolas Bouzou?
Je trouve que c'est vraiment l'un des passages les plus passionnants de l'œuvre d'Angus Deaton. Il y a cette controverse en réalité qui existe depuis les années 70 et qui consiste à se demander au fond, dans la progression de l'espérance de vie, qu'il a encore date, je schématise un peu, mais de 1850, c'est à partir du milieu du 19e siècle que l'espérance de vie explose, mais il y a cette controverse depuis les années 70. Est-ce que c'est la croissance économique, la prospérité qui permet l'augmentation de l'espérance de vie, ou est-ce que ce sont tout simplement les progrès de la médecine, les progrès de l'hygiène? Et Angus Deaton offre une réponse qu'il a encore, une réponse qui est, je crois, tout à fait juste et tout à fait équilibrée et qui n'est pas manichéenne. C'est-à-dire que il explique que tous ces facteurs jouent. Il faut de la croissance économique, bien évidemment, tout simplement parce que il faut des revenus pour pouvoir investir dans la santé. En même temps, il faut évidemment des innovations dans le domaine médical, mais il faut aussi que les politiques publiques se préoccupent de l'accès à tous de la santé. Et vous voyez, je trouve que c'est très moderne au fond cette idée-là, parce que là encore, elle n'est pas manichéenne. Nous, on est dans un pays où parfois on a un peu tendance à opposer les uns aux autres, on a tendance à opposer le public, le privé, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Bon. Et en fait, Angus Deaton dit, non, ce qui a fonctionné dans l'histoire, c'est quand on avait tout cela à la fois. C'est-à-dire qu'il faut de l'innovation, c'est souvent des acteurs privés, mais il faut de l'État, il faut de la solidarité, il faut des politiques. Il faut des politiques publiques, notamment pour que les plus modestes puissent accéder à la santé. Puis il faut de la croissance économique, évidemment, parce qu'on a besoin de ressources pour investir dans la santé.
Et il donne des exemples précis. Par exemple, il explique que l'espérance de vie s'est accrue dans environ 20 ans dans plusieurs pays, Bolivie, Honduras, Nicaragua, en l'absence de croissance économique importante.
Alors, là il y a encore, il faut distinguer plusieurs situations. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez des pays dans lesquels l'espérance de vie peut progresser alors même qu'il n'y a pas énormément de croissance économique, tout simplement parce que vous avez des effets de contagion de l'espérance de vie. Vous avez, depuis quelques décennies maintenant, une convergence des espérances de vie dans le monde. Et ce que l'on voit, c'est que les pays les plus pauvres rattrapent les pays les plus riches en termes d'espérance de vie. Ce que montre aussi Angus Deaton, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les économistes, il a publié avec son épouse, parce qu'il travaille beaucoup avec son épouse, qui s'appelle Anne Case, il a publié il y a quelques années une étude qui portait cette fois sur la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Vous savez, qui est l'espérance
de vie
diminue
aux États-Unis. Il est l'un des premiers à avoir alerté sur la crise des opiacés.
Les médias en, voilà, exactement. Alors, vous devancez ma démonstration. Les médias en parlent souvent à juste titre. Mais, vous savez, on a un peu cette idée que la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, c'est lié à l'obésité, au fait qu'ils mangent mal, à la sédentarité, etc. Et Angus Deaton et son épouse, Anne Case, ont voulu regarder ça de très près. Et, en réalité, pas du tout. Et ça, il faut bien que nos éditeurs comprennent ça, parce que c'est très important quand on réfléchit aux économies développées. La totalité de la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, elle vient de ce que Case et Deaton appellent assez joliment, d'ailleurs, les maladies du désespoir. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison, les overdoses liées aux drogues, les maladies du foie liées à l'alcoolisme, qui peuvent dégénérer en cirrhose, en cancer du foie, etc., et les suicides. Et ça, en fait, ceux qui sont touchés par ces maladies du désespoir, ce sont... Alors pardonnez-moi, je schématise un peu, hein, mais les classes moyennes inférieures, vous savez, les classes moyennes qui sont menacées par la mondialisation, par l'innovation technologique.
Et
c'est moi le libéral, c'est moi le libéral qui vous dit ça. C'est évidemment un problème que nous, les libéraux, nous n'avons pas réglé. Ça fait un peu écho quand même au gilet jaune, si vous voulez. Il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire de malaise des classes moyennes, qui est quelque chose qu'il faut prendre vraiment très au sérieux, parce que Deaton nous montre que ça peut pousser les gens jusqu'au suicide.
Alors l'indicateur de l'espérance de vie permet toutefois à Angus Deaton de démontrer la montée des inégalités, et pour cela il revient au chasseur-cueilleur du pré-néolithique.
Alors ça aussi c'est quelque chose, c'est vraiment un passage qui est absolument extraordinaire. L'histoire humaine, c'est quand même une histoire de progrès. C'est-à-dire qu'il y a quand même, sur le très long terme, de moins en moins de pauvreté, on vit de plus en plus longtemps. Donc voilà, le progrès, c'est quand même quelque chose qui existe. Mais il y a des moments qui sont des moments vraiment de régression. Et il y a deux grands moments de régression. Alors il y en a un qui est assez récent, c'est le grand bond en avant de Mao, hein, 1958-1960, où en deux ans, l'espérance de vie à la naissance en Chine baisse de 20 ans. Vous m'avez bien entendu, en deux ans, elle baisse de 20 ans. Et une autre période de régression, c'est le passage du paléolithique au néolithique, l'invention de l'agriculture. Et oui, parce que au paléolithique, en fait, on vit pas si mal que ça. Alors, on est des chasseurs-cueilleurs, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trottine 20-25 km par jour pour se nourrir. On va manger des baies, on mange des fruits, des légumes, un peu de viande de temps en temps, quand on en trouve, un peu de poisson. Quand on trouve de la viande, c'est des très très gros animaux, c'est des mammouths, et donc du coup, on les mange pas tout seul. Donc, on a beaucoup de relations sociales, on partage, et au fond, ça, c'est un mode de vie qui a permis à l'homme d'avoir une espérance de vie, alors qui était pas colossale, mais qui était de l'ordre de 30 ans. C'est-à-dire la même espérance de vie qu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en France, l'espérance de vie à la naissance, elle est pas supérieure à 30 ans. Et l'invention de l'agriculture, donc ce passage du néolithique au paléolithique, va aboutir à une baisse de l'espérance de vie. Et oui, parce que on devient agriculteur, c'est difficile, on est sédentaire, on se transmet aussi beaucoup plus facilement des maladies, on a un mode de vie qui est beaucoup plus pénible, et puis, surtout, on va commencer à moins bouger, à moins faire de sport.
Et alors Angus Deaton, qui a contribué à l'élaboration des seuils de pauvreté à l'échelle mondiale, se montre assez critique dans cet ouvrage, Nicolas Bouzou, à l'égard de l'aide au développement. Pourquoi est-ce que cette aide ne peut pas fonctionner, selon lui?
Alors, je pense que c'est très excessif de dire qu'elle ne peut pas fonctionner, mais quand vous regardez la contribution, on va dire, de l'aide au développement à la diminution de la pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté extrême, donc les gens qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour, cette pauvreté extrême, elle a énormément diminué ces dernières décennies et aujourd'hui elle touche moins de 10% de la population mondiale. Si on prend le point de départ des statistiques, l'année 1800, on est à 90%, donc on est passé de 90% à 10%.
Et dans les années 80, donc, peut-être 40% environ.
Exactement, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que ça continue de diminuer. On a cette amélioration très claire qu'on mesure. Quand on regarde les facteurs qui ont expliqué cette amélioration, c'est quand même avant tout l'augmentation de la croissance économique et des revenus. Il y a une façon très simple de le voir, c'est que l'endroit du monde où la pauvreté extrême a le plus reculé, c'est l'Asie du Sud-Est, en particulier la Chine. On est passé de 80% à 10%, non pas en deux siècles, mais en 30 ans, depuis 1980. Donc une extraordinaire diminution de la grande pauvreté en Chine. Et ça, c'est vraiment lié au développement économique du pays, plus qu'à l'aide au développement, malgré tout utile.
Et pourquoi est-ce qu'Angus Deaton considère, lui, que l'aide au développement ne peut pas précisément aider à sortir de la pauvreté?
Parce qu'il voit les grandes masses, parce que c'est un statisticien, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, et donc il regarde froidement ses statistiques, et il dit, ben voilà, depuis deux siècles, là où on a une baisse de la pauvreté, c'est là où on a du développement économique, c'est là où les entreprises ont pu investir, c'est là où les États ont pu se structurer pour faire émerger des débuts d'État-providence, etc. Et l'aide au développement, elle n'a pas véritablement contribué, ou en tout cas, si elle a contribué, ça ne se voit pas dans les statistiques.
C'est un statisticien, dites-vous, oui. Mais l'originalité de sa méthode, c'est précisément qu'il fait des allers-retours en permanence entre la théorie et les données empiriques. C'est en cela qu'il a apporté une contribution importante à l'économie.
Oui, c'est quelque chose qui est assez moderne. Alors, peut-être qu'on peut être un peu fier en France, parce que je pense, si vous voulez, que l'origine intellectuelle de cette méthode, elle est française et c'est l'école historique des annales en France, Bloch, Braudel, etc. Donc là, on remonte à avant la guerre. Et cette idée, au fond, de mélanger l'histoire et les statistiques. Cette idée qui consiste à mesurer l'histoire. Et donc son idée, en effet, c'est de quantifier l'histoire, de mesurer l'histoire, d'arriver à essayer d'avoir une idée extrêmement précise de l'évolution des conditions sanitaires, des conditions sociales, des revenus, des inégalités, et sur des périodes qui sont des périodes longues. Ça aide à objectiver l'histoire. Alors je vais faire hurler les historiens, évidemment, parce que quand vous objectivez l'histoire, vous avez la possibilité de commettre des anachronismes, parce que vous allez comparer des statistiques d'aujourd'hui avec des statistiques d'hier, et donc les historiens, on va dire, les purs historiens vont hurler, mais je pense néanmoins qu'il y a quelque chose de très utile, ne serait-ce que parce que ça montre que, quand même sur le long terme, l'humanité, elle s'en sort pas si mal, il y a un vrai progrès humain.
Cet ouvrage, Nicolas Bouzou, c'est un plaidoyer pour la croissance économique, mais est-ce qu'il ne met pas un peu vite de côté les préoccupations environnementales qui sont très peu abordées?
Oui, et Deaton l'a regretté, d'ailleurs, il l'a regretté ultérieurement. On va pas se mentir, dans les travaux de recherche américains, l'environnement est une préoccupation qui monte, mais qui reste quand même secondaire. Au fond, on peut raccrocher les wagons de la façon suivante. Tous les progrès génèrent de nouveaux problèmes.
Un dernier mot, peut-être, Nicolas Bouzou, pour donner envie à nos auditeurs de lire La Grande Évasion d'Angus Deaton. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le lire et qu'est-ce que vous en retenez?
C'est un formidable plaidoyer pour la confiance. L'humanité a toujours eu des grands problèmes, problèmes de santé publique, problèmes de peste, problèmes d'accès à des ressources naturelles, problèmes de trappe à pauvreté. Et finalement, l'ingéniosité humaine, l'innovation, mais au sens très, très général, pas seulement technologique, mais l'ingéniosité humaine a toujours permis de surmonter ces problèmes. Et c'est peut-être ça, vous évoquiez la question de l'environnement. Voilà, on peut peut-être se dire, l'environnement, on sous-estime sans doute l'ampleur du problème, mais quand on lit Angus Deaton, on se dit qu'on sous-estime aussi sans doute notre capacité à le résoudre.
Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, d'être passé dans nos studios aujourd'hui. La Grande Évasion, santé, richesse et origine des inégalités est paru aux Presses universitaires de France. Je renvoie également les auditeurs à votre dernier livre, coécrit avec Julia de Funès, La comédie inhumaine, paru aux éditions de l'Observatoire l'an dernier. Merci infiniment.